D'accord, bon. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Mais bon, Hachem, je pense que vous n'avez pas trop oublié tout ce qu'on a étudié ensemble. Aujourd'hui, on finit l'exemple du Meler Hodou, du roi de Hodou, d'Inde. On était, je vais reprendre le texte, et on va lire ensemble. Attendez, Vous voyez le texte ici?
C'est énorme.
Ok, donc, la dernière pisca. Amar et Haver, Vim Shalcha Shoel Alaf Bemat et Taeroto, après avoir reçu tous les cadeaux du roi d'Inde, du Meler Hodou, sur lequel tu n'as aucun doute que ça vient d'Inde, et grâce à ces trésors qu'il t'a apportés, tu peux guérir les malades, tu peux gagner les guerres. Grâce à lui, tu fais des choses extraordinaires. Alors, il lui pose la question, Rabbi Yehuda Halevi, il fait « De quelle manière tu vas le décrire ?» Amar HaKuzari, le roi des Khazars, lui dit « Batéharim asher idbareru etzli la'ayin » Dans toutes les descriptions, par lesquelles il est apparu à mon œil, à mes yeux. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, je peux parler uniquement de ce que j'ai vu. Je ne peux pas parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les choses qui étaient douteuses jusqu'à maintenant, est-ce que le roi d'Inde existe, etc. Alors, ça va devenir clair maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai eu une rencontre avec le roi d'Inde. Le roi d'Inde, Meler Hodou, m'a emmené des cadeaux. Ces cadeaux m'ont guéri, ces cadeaux m'ont aidé. C'est-à-dire que j'ai, ma mâche, eu un rapport avec lui concret qui m'a aidé. Et donc, je pourrais parler de ça. Amar et Haver. Et donc Rabbi Yehuda Halevi répond, le rabbin répond, à la derech hazeh shivotira kasher she'eltani. Il dit, mais c'est exactement la même réponse que toi tu me donnes maintenant au sujet du Meler Hodou. C'est la même réponse que je t'ai donnée lorsque tu m'as posé la question en qui j'ai la emouna. Vechen patar Moshe le daber impo. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu a répondu à Pharaon. Keshe Amarlo, lorsqu'il lui a dit « Eloke Ivrim shela Chaninecha » C'est le Dieu des Hébreux qui m'a envoyé vers toi. Retzonon Lomar, c'est-à-dire « Elohe Avraham Yitzhak Yaakov mipnei shaya Avraham Yifursam et Tzalou Mot » Le Dieu d'Avraham Yitzhak Yaakov, parce qu'Avraham était connu parmi les générations, on avait rajouté qu'Avraham avait eu déjà une histoire avec Pharaon et que Pharaon avait eu déjà affaire au Dieu d'Avraham. « Vechi traber alen varemi vinigotam vassalem niflaot » Et la relation que ma nation, elle a eue avec ce Dieu. C'est ça que je t'ai parlé, la traversée dans le désert, les miracles qui se sont passés dans le désert. Vélo Amar, et il n'a pas dit, Moshe n'a pas dit au Pharaon, Eloke Hashamayim Va'aretz Shelachaninecha. C'est le Dieu du ciel et la terre qui m'a envoyé vers toi. Vélo Bori Ubourecha, il ne m'a pas dit, c'est mon créateur et ton créateur qui m'a envoyé chez toi. Et mieux que ça, même Hachem lui-même, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Otziti Chamer d'Israël, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Velo Amar Ani Bore Olam ou Bore Achem. Et il n'a pas dit je suis le créateur de ce monde et votre créateur. Il aurait pu dire ça à Kadosh Baruch Hu. Il est en train de leur parler, il leur dit je suis le créateur du monde. Non, il a dit. Ce que vous avez vécu, c'est moi qui ai agi l'expérience de vie que vous avez eue d'être sorti d'Égypte. Et c'est ainsi que j'ai commencé, roi des Khazars. Ashkacher chez Tani El Munati, lorsque tu m'as posé la question au sujet de Maïmouna, Ashivotira Mashani Chayavbo, je t'ai répondu ce que je suis, Chayav, tenu. Pourquoi je suis tenu? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Et c'est l'émouna que est tenu d'avoir le peuple d'Israël, qui est clarifié chez eux, à Mahamadaou, cette statue-là, cette position, par la vue de leurs propres yeux. Et ensuite, la Kabbalah, je ne traduis pas le mot Kabbalah, c'est mal traduit pour le mot tradition, mais Kabbalah, la réception, qui va continuer de génération en génération, qui est Maré Enaim, qui est comme si les yeux avaient vu. Ça, c'est un point très, très, très complexe qu'il faudrait expliquer. Il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on prenait par la chose la plus simple. Hachem se dévoile à nous et nous parle. On comprend que c'est quelque chose de waouh. C'est pas un ami qui me parle, c'est pas un roi qui me parle, c'est pas un extraterrestre qui me parle. C'est le divin. C'est-à-dire, on va y revenir de quelle manière ça s'est passé. Mais pourquoi le divin n'a pas dit « Je suis ton créateur » Il aurait pu dire une chose comme ça. Il aurait pu dire « Je suis ton créateur ». Est-ce que c'est Emet ou Sheker? Est-ce que ce serait la vérité ou le mensonge? Ce serait la vérité. Mais ce n'est pas par là que la Emouna commence. La Emouna du peuple d'Israël ne commence pas par le fait que Akadosh Bourou est créateur de la personne, mais parce qu'il est créateur de quoi? Allez, dites-moi vous.
Il est créateur de tout.
Alors, il aurait dû dire, je suis le créateur de tout. Et je vous pose des questions, est-ce qu'on l'aurait cru? Bien sûr qu'on l'aurait cru. On l'aurait cru. Et c'est évident, quand je vous prie de parler, je suis le créateur de tout. Bevakasha. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et pourquoi il n'a pas dit ça? Je suis le créateur de tout et un beau jour, j'ai décidé de vous libérer d'Égypte. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Wam Israël?
Je suis Hachem, créateur de la votre Abraham, Yitzhak et Jacob.
C'est pas ce qu'il dit.
Créateur de votre histoire, je vous ai sorti d'Égypte.
Je suis créateur de vous. Exactement. Mais ça change tout. Je suis créateur de vous. Traduisez Asher Otsetira Amiret Mitzrayim, je t'ai fait sortir, c'est-à-dire les Otsis. Ça veut dire la tête Metziout. Je vous ai donné votre réalité. C'est-à-dire que nous, la Emouna qu'on a à Hachem, c'est la Emouna par rapport au fait qu'on est Israël. C'est cette Emouna.
C'est par rapport au fait historique de sortie?
Oui, mais le fait historique d'être une nation.
Pas
c'est
que
par
ça.
Rapport à ce passage-là.
D'accord.
Comme si je vous dis, les Goïms, ils vont avoir leur Emouna par rapport au fait d'être homme ou d'être une créature.
Mm-hmm. Okay.
Nous, c'est du fait qu'on est Israël. C'est le lien qui existe entre moi et Hachem, le fait d'être Israël. C'est mieux que ça. Le lien, il commence par ça. Il commence par ça. Et je vous donne un exemple très simple. Les avot n'ont d'un sens que parce qu'ils sont avot. Les avot n'ont d'un sens que parce qu'ils sont avot.
Okay.
C'est marqué ça. C'est marqué, attendez, excusez-moi. Dans le Sefer Shemot, okay, vous vérifiez, si vous n'avez pas à côté de vous, vous vérifiez. Dans le Sefer Shemot, il y a la paracha de Vaera.
Okay.
C'est la deuxième paracha de Shemot. Et la fin, comment ça s'est passé la fin de Shemot? La fin de Shemot, elle est très difficile. Paro entend les paroles de Moshe qui veut libérer le peuple d'Israël. Pour empêcher le peuple d'Israël de penser à la Géoula, il renforce, il alourde l'esclavage en Égypte pour qu'ils arrêtent de cesser de penser à la Géoula, à la libération, à sortir d'Égypte. Et là, Moshe crie contre HaKadosh Baruch Hu et il lui dit la fameuse phrase « Lama areota l'amazé » « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» Comment, Moshe, tu parles comme ça à HaKadosh Baruch Hu? Et là, en tant que Shaliach Neheman, en tant que Eved Neheman, un envoyé fidèle à la mission que HaKadosh Baruch Hu lui a donnée de sauver le peuple d'Israël, il n'accepte pas que le peuple d'Israël, parce qu'il a été envoyé Moshe, il est en train de souffrir. Et on finit comme ça la paracha de Shemot. Pour nous apprendre, dans les processus de Géoula, c'est sûr qu'il va avoir des souffrances. Ce n'est pas parce que tu commences la Géoula que tout va aller halak, tout va aller lisse, et là il y aura des guerres. Comme le Rambam dit dans son titre, des Ilchot Melachim ou Milchemotem, c'est les lois du Messie, les lois du Mashiach, mais il appelle ça les lois des rois et de leur guerre. Les gens pensent que quand le Mashiach va arriver, il n'y aura plus de guerre. C'est faux. On le voit aujourd'hui, il y a des guerres. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a des rois, il y a des combats entre les rois. Mais le seul, c'est d'avoir un roi d'Israël. la Géoula s'arrête. On a l'impression. Akadosh Baruch Hu dit non, la Géoula, ça ne s'arrête pas, ça commence. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. Et au début, le premier verset de la paracha de Vaera, regardez, c'est Pashut Madim, c'est un enseignement du Rav Ashkenazi, il dit la chose suivante. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Elohim parle à Moshe, Elohim c'est Midat Adin, c'est la rigueur qui se dirige vers Moshe, le divin dans la rigueur, et dit Ani Yudke Vavke, je suis Yudke Vavke. Vaera l'Avraham Israël Yaakov Bel Shaddai, j'ai apparu, je suis apparu à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov, El Shaddai, en tant que El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? El Shaddai, c'est un dénom d'Akadosh Baruch Hu qui a promis la sortie d'Égypte mais qui ne s'est pas réalisée. Ou Shmi Hashem lo nodat ilahem, mais il ne connaissait pas sous le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire, le fameux tétragramme n'était pas connu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, si tu vois tout Bereshit, c'est Vayomer Yud Ke Vav Ke al Avraham Lech Lecha. Il a marqué que c'est Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, les quatre lettres du nom d'Hachem, qui parle à Avraham. Mais Avraham ne comprenait pas ce nom. Jusque-là, ça va? Maintenant, regardez. Rashi, les plus petits Rashi, les Rashi les plus courts sont les plus difficiles. Rashi commente, Vaera, je suis apparu. La suite du verset, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Si tu demandes à un enfant de 3-4 ans, tu lui demandes qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire? Ce sont les avotes, les pères. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les pères. E-R-E. Maintenant, Rashi, il dit, Vaera, je suis apparu, elle a avot, vers les pères. Et la Torah, elle continue, elle a Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai besoin de Rashi pour savoir que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les pères. Et bon, c'est là, on sait, on n'a pas besoin de Rashi. J'ai besoin juste de Roshi. C'est qui Roshi? C'est ma tête. Avant Rashi, il y a Roshi. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous nous enseignez, Rashi? Je suis apparu, Rashi, il complète, vers les pères, aux pères. Et la Torah dit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Rav Ashkenazi disait, il est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov parce que c'est les pères. Sinon, il ne serait pas apparu à eux.
Mm-hmm. Je ne sais pas, Mikem.
Je ne me tourne pas vers Avraham, Yitzhak et Yaakov parce que c'est de grandes tzadikim. Je ne me tourne pas vers Avraham, Eze, prophète, quel prophète? Yitzhak, mais quel prophète? Yaakov, non, leur valeur, c'est parce qu'ils sont les avot, les pères de qui? Du Ham Israël. Si ce n'est pas les avot du Ham Israël, les pères fondateurs du peuple d'Israël, les principes avot, c'est, rappelez-vous toujours, on joue avec ça. Av, c'est père, mais le vrai terme av veut dire principe. On vient de finir la période de Pessah et Shavuot. Vous êtes avec moi là? Non, il y a un problème là. Vous savez bien? On a fini Pessah, Shavuot, on a lu les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, c'est les chapitres des principes. Alors, ok, c'est peut-être en remèze à nos pères, mais Av, Melacha, Shabbat, on a 39 travaux. On est les Avot et les Toladot, les principes et les ramifications des principes. C'est Tolada. Av et Tolada. En hybride, c'est magnifique. Av, c'est le Aleph Bet. Av, comment t'écris Av? C'est Aleph Bet. Le Aleph Bet, c'est le principe. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les principes fondateurs d'Israël. C'est en tant que principe fondateur d'Israël que Hachem s'est tourné vers eux. Mieux que ça, Noach, le Zohar dit, pourquoi Noach a été sauvé? Parce qu'en lui, Noé, le déluge, pourquoi lui il a été sauvé? Parce qu'en lui, il portait Avraham. C'est-à-dire qu'on a sauvé le monde parce qu'il y avait un homme qui était porteur d'Avraham, qui était porteur du Ham Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar? Il dit, on va sauver le monde, pourquoi? Parce que pour permettre à Israël d'apparaître. C'est-à-dire que toute l'histoire, c'est seulement pour l'apparition d'Israël. Parce que sinon, il n'y aura pas de monde. On ne veut pas annuler le monde, Chas v'Shalom. Mais la relation du divin avec ce monde, c'est pour Israël. Où c'est marqué ça? Où c'est marqué d'une manière pshat, très simple. D'après Rashi, c'est le pshat. Allez, Yeshiva Online, c'est avec les cours que vous avez, vous êtes tous.
Alors, Kadosh Baruch Hu parle à Abraham et lui dit, par toi seront bénies toutes les nations, toutes les nationalités.
Avant,
Bereshit.
Bereshit Torah avec Israël.
Exactement, c'est tout. Maintenant, on rajoute le terme Bishvil Reshit, pour Reshit, c'est pour la Torah et pour Israël. Bishvil, ça veut dire quoi? Bashevil.
Le chemin.
Dans le chemin d'Israël. D'accord? Donc, ça veut dire ça, le monde, c'est la relation qu'Akadosh Baruch Hu a avec ce monde, c'est à travers Israël. Ça ne veut pas dire que c'est que ça intéresse que Hachem s'intéresse qu'à Israël, il a créé un monde. Mais c'est à travers Israël qu'il agit dans ce monde. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que lorsque Akadosh Baruch Hu, il se dévoile aux individus du peuple d'Israël, il ne va pas dire « je suis le créateur du monde » parce qu'il rabaisserait le niveau du peuple d'Israël à des végétaux. Il rabaisserait le niveau de ceux qui sont sortis d'Égypte à des animaux. Mais ils disent que vous avez vécu maintenant, la relation que vous avez avec moi, ce n'est pas de créateur et créature, c'est de Abba et Ben. Abba et Ben, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, la relation qu'entre Akadosh Baruch Hu et le monde minéral, végétal, animal, homme, c'est un rapport de créateur-créature. C'est Steve Jobs qui a inventé le iPhone, le iMac, le iPad, le iPod. C'est des inventions. Mais quand tu rencontres les enfants de Steve Jobs, ça n'a rien à voir. Il dit Steve Jobs, c'est Abba Sheli, c'est mon père. C'est une autre relation, c'est une relation de vie. Ce n'est pas de l'extériorité, c'est de l'intériorité le rapport. C'est deux choses complètement différentes. Faites une différence entre un enfant et une créature d'eux, une création d'eux. C'est deux choses complètement différentes. Donc, quand il va, Akadosh Baruch Hu va parler au Am Israël, il va dire c'est quoi la relation qui existe entre moi et vous? C'est cette naissance de nation, cette naissance d'Israël. Et donc, on va pouvoir parler seulement, dit Rabbi Yehuda Levi, quoi, le Haver, le rabbin, on peut pouvoir parler seulement, quand tu m'as posé la question, c'est quoi ma Emouna? Je ne t'ai pas dit mon créateur, parce que je n'y étais pas. Nous n'étions pas là lors de la création du monde. Par contre, ma nation était, lors de sa naissance, lors de l'intervention divine pour nous créer. Ça, c'était la sortie d'Égypte. Dans le désert aussi, on a eu une relation avec lui. Toi, roi des Kazas, tu cherches à rencontrer le divin. Tu cherches à rencontrer l'infini. Tu allais chercher chez les philosophes. Les philosophes sont capables uniquement de donner des définitions, de donner des thèses et d'écrire des suppositions et des hypothèses. Ce n'est pas une rencontre de vie avec le roi. Tu allais voir les chrétiens, tu allais voir les musulmans, eux aussi parlent d'une relation, mais que c'est Mohammed qui a une relation avec le divin. Que c'est le divin chez les chrétiens qui était parmi les hommes, et Bichlal, depuis, il n'est plus parmi les hommes, le Dieu est mort, d'après eux, puisque Jésus, c'est Dieu, et donc il est mort, il n'est plus de ce terre, il n'existe plus. Donc, tu cherches quoi? Tu cherches une relation, une approche, une vie, un maga de toucher à Kadosh Baruch Hu? C'est seulement par l'âme Israël. C'est seulement par l'âme Israël. C'est lui seul qui a vécu un rapport concret avec le divin. Alors, il me dit, mais prouve-moi que c'est vrai. Vous savez, d'abord, je te raconte les faits. C'est comme si je raconte l'histoire de mon grand-père. Zichrono Livracha, c'est une histoire de quelque chose que j'ai vécu. Et ça, je peux te raconter. C'est-à-dire, maintenant, d'où Rabbi Yehuda Levi, il a appris ça. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que mon rive et Rabbi, le Rav Ariel Edri, il est en train d'écrire un livre de toutes les références de Rabbi Yehuda Levi par rapport au Chumash. On dit que les cinq discours de Rabbi Yehuda Levi, on est dans le premier discours, c'est par rapport au Sefer Bereshit. Mais ce n'est pas seulement Bereshit, Kanyeres et Bereshit et Shemot, parce qu'on parle beaucoup de passage de Shemot, de la sortie d'Égypte, mais il est en train de donner des références de tout le Chumash par rapport au Sefer HaKuzari. Ça va être une œuvre, Bezrat Hashem, qui va énormément enrichir l'étude de ce livre. Mais on voit ça dans la paracha qu'on vient de quitter pour Shavuot, la paracha de Yitro. Qu'est-ce qui se passe dans Yitro? Une réaction très, très, très étonnante de la part des enfants d'Israël. Alors regardez, je vous ai ramené ici les Mekorot. Ceux qui ont un Chumash, ils peuvent suivre. On est au chapitre 19 du Sefer de Shemot, du livre de Shemot, le livre de l'Exode. Alors regardez, on est ici. Attendez, j'ai mis, voilà, ici, super. Bachodesh Shelishi, le troisième mois. Okay, donc, on est sorti de Nissan. Le deuxième mois, c'est Iyar. Le troisième mois, on est au mois de Sivan. Et Tzed ben Israël, Miret Israël, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Bayom Azé, Baumin Bar Sinai, ils sont venus ce jour-là. On est arrivé le premier Sivan de l'an 2448 dans le désert du Sinaï. Vaïsou Mirfidim, ils sont venus de Refidim, Vayavo Midbar Sinai, et ils sont arrivés au désert du Sinaï, Vayahanu Bamidbar, et ils ont campé dans le désert, Vayahan Sham Israël et Gedar. Ils ont campé là-bas, Israël. Tout de suite, Rachid dit, on a commencé par un pluriel, ils sont venus de Refidim, ils sont venus au Midbar Sinaï, ils sont campés au Sinaï, mais il a campé là-bas, Israël. Israël, c'est quoi? Ke'ish Echad Belev Echad. Ça veut dire quoi? Un seul homme, un seul cœur. Tant qu'il n'avait pas l'unité du peuple d'Israël, on ne peut pas gagner les guerres, c'est sûr, mais ce n'est pas seulement physique. On ne peut pas recevoir la Torah. Une personne qui n'est pas en amour plein pour Israël ne peut pas recevoir la Torah, n'est pas Torah. C'est vrai? Negedar, face à la montagne. Ou Moshe ala Elohim. Maintenant, Moshe monte vers Elohim, c'est-à-dire il se présente vers le Harsinaï, il n'est pas monté au Sinaï, il reste en bas de la montagne, mais il sort du camp pour parler avec Akadosh Bourou. Bah, il crée la Hachem Inar les morts, et Hachem lui parle depuis la montagne. Kotomar levet Yaakov et Dagel ben Israël. Ainsi tu parleras aux enfants, à la maison de Yaakov et aux enfants d'Israël. Atem ritem acharzitim Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Bah, essaye etrem alkan fenisharim. Je vous ai porté sur les ailes des vautours. Va vie être ménage, je vous emmène ici vers moi. Veata, et maintenant, si vous écoutez, vous entendez ma voix et vous serez un trésor de parmi les peuples, car moi, à moi, toute la terre. Vous serez une nation de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu dois répéter aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Hachem, Dieu, parle à Moshe, Moïse, et Moshe transmet ça au peuple d'Israël. L'homme d'Israël n'a pas entendu ça, il a entendu ça de la bouche de Moshe. Vayavo Moshe, est venu Moshe, Vayikra Lizikneam, il a appelé les anciens du peuple, les sages du peuple, Vayasem, Vifnet, Kolenri, Manacher, Sivahu Hachem. Il a répété exactement toutes les paroles que Kadosh Baruch Hu lui avait données. D'être une grande nation, une nation de prêtres et une nation sainte. Vayanu Kolam, Yarda, Vayumo, Kolacher, Diver, Hachem, Naase. Ils ont dit, le peuple d'Israël a dit, tout ce que Hachem dira, nous ferons. Va Yachem, Moshe, Divraham, El Hachem. Et là, regardez, Moshe va répéter la réponse du peuple d'Israël à Dieu. Jusque-là, c'est logique. Va Yomer Hachem, El Moshe. Hachem dit à Moshe, Ine Anori, Baelera, Beave, Anan, Babou, Yishma, Ambedaberi, Mar, je viens dans un épais nuage pour qu'il entendra le peuple lorsque je parlerai avec toi. Les Chachamim nous expliquent, je parlerai avec toi, Moshe, et tu répéteras au peuple. Mais aussi en toi, ils ont une confiance éternelle. Vayagen Moshe d'Ibrahim à Hachem. Et là, Moshe va répéter au peuple ce que Hachem a dit. C'est-à-dire que Hachem va parler à Moshe, et Moshe va parler au peuple. C'est-à-dire que Moshe dit au peuple d'Israël, Dieu va me donner une loi, Dieu va me donner des ordres, et je vais vous les répéter. Va yomer Hachem el Moshe. Vegam bechaya minu leolam. Et regardez qu'est-ce qu'il y a marqué ici. Va yaged Moshe divrea am el Hachem. Moshe dit les paroles du peuple à Hachem. Je répète, regardez ce pasouk. Le pasouk 9, tête. Dieu dit à Moshe, voici que je viens dans un épais nuage. Et ils entendront le peuple lorsque je parlerai avec toi. C'est-à-dire, je parlerai avec toi. Et tu répéteras au peuple. Mais si en toi aussi, ils auront une confiance éternelle. Et là, va yager Moshe divré à Am El Hachem. Et là, il y a un renversement. Au lieu de dire, la Torah aurait dû dire, Moshe a transmis ça au peuple, les paroles d'Hachem au peuple. Là, il y a marqué les paroles du peuple à Hachem. Et là, Rashi, il pose la question. Moshe, Hachem, il vient de dire à Moshe qu'il va lui parler, lui donner les 10 commandements, et que Moshe va répéter les 10 commandements au peuple. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le verset dit que Moshe dit à Hachem les paroles du peuple. Mais qu'est-ce qu'il dit le peuple? Tu as compris le problème? Réponse du Rashi. Je vous mets en grand. Réponse du Rashi. Rashi, il dit, quand Moshe est venu, quand Moshe est venu et a dit, Dieu va me donner une loi, des lois, et je vais vous les transmettre, on parle des 10 commandements. Le peuple a dit, nous voulons entendre du roi. Nous voulons entendre le roi. On ne veut pas passer par un intermédiaire. Ça marche ? Moshe va dire ça à Hachem. Va yaged et divrei ha'am. Va yaged Moshe et divrei ha'am el Hachem. Et Moshe a répété les paroles du peuple qui veulent t'entendre. Il dit, c'est de toi qu'ils veulent entendre et pas de moi. Alors là, Hachem, il dit, ok, je vais vous parler. Et c'est comme ça que Hachem va nous parler directement. Il va parler seulement les deux premières paroles. Je suis l'éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Sur ça, on a deux chitotes, deux thèses. L'explication de Rabbi Yehuda Lévi et à la même période, l'explication du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. On va voir les deux thèses. Ça va? Première thèse dans notre shiur, Rabbi Yehuda Lévi. Comment il explique ce passage de la Torah, Rabbi Yehuda Lévi, qui est essentiel? Il y a la chose suivante. Donc, dans le Sefer Kuzari, c'est dans le même discours qu'on est en train d'étudier, mais c'est le discours numéro, c'est le dialogue numéro 49, même tête. Ok, peut-être ça fait référence. On est arrivé au même tête, au 49e degré de pureté, juste avant de recevoir la Torah. Amar et Haver, le Haver dit, donc le Rav, le rabbin dit, répond au roi des Khazars. Aval Avram Avinu Atzmo Aya Bedora Palaga, Vinisharo Mekrora, Bishon Ever, Avi Avi, Lezenikra Ivri. Abraham est le dernier des Hébreux, on aura l'occasion d'expliquer ça, ce que ça veut dire. Où va Moshe? C'est là que ça commence. Où va Moshe? Et Moshe est arrivé. Il fait en plus grand. Où va Moshe Acharav? Moshe vient après lui. Les Arba Meot Shana, 400 ans après. Veolam Male Mechochmat Shamaim Vaaretz. Et le monde est rempli de connaissances du ciel et de la terre. C'est-à-dire, d'abord, première étape, Moshe n'arrive pas à un monde qui est ignorant. Moshe arrive devant la puissance de l'Égypte, qui jusqu'à aujourd'hui, ce que l'Égypte a construit, comme les pyramides ou comme les momies, etc., on a retrouvé d'autres momies pas très, très longtemps, c'est pas chouette extraordinaire, des sciences qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Certaines choses qu'ils connaissaient que nous ne connaissons pas à notre époque, 4000 ans après. Comment c'est possible, une chose comme ça? Et là, il vient devant des personnes sur lesquelles, comme on dit, on ne peut pas la vaude à l'EM. On ne peut pas les tromper. Slicha, désolé de vous dire ça, mais quand Mohammed il va parler aux idolâtres d'Arabie, ce n'est pas le même niveau spirituel. Ce n'est pas le même niveau spirituel que l'Égypte antique. Et donc, Moshe arrive dans cet empire-là, dans cette culture de l'Égypte. Où va El Paro? Il va sur la personne la plus importante, et donc la personne qui est entourée de tous les plus grands professeurs, magiciens, etc. etc. Donc, ce n'est pas une personne simple. Ce n'est pas une personne simple, Paro. Vechachme Mitzrayim, Vechachme Israël, Maskimim Lo, Vachokrim Alav. Les sages égyptiens et les sages même du peuple d'Israël, à la chair Loéminou et Mounash Lema, ils n'avaient pas une confiance parfaite. Pour l'instant, le mot Emunah, je traduis par foi ou confiance, qui aborait Medaber Ima Adam. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que le créateur du monde pouvait parler à l'homme. Si tu posais ça, cette question-là, aux Égyptiens, aux mêmes sages d'Israël, que Hachem parle à l'homme, ils n'acceptent pas une chose comme ça. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est qu'ils étaient très critiques. Ils étaient très critiques. Qui était très critique? Les goyims, mais aussi les juifs. Alors on y va. Ils savaient qu'il y avait des forces. Je vous rappelle que les Khartoumé Mitzrayim, les sorciers d'Égypte, ont été capables de faire Dam, le sang, Tzfardéa, les grenouilles. Kinim, ils sont arrêtés. Mais ils étaient capables de faire Dam et Tzfardéa. Ils étaient capables de faire Tanim, de transformer un bâton en serpent. Ils n'ont pas été impressionnés jusque-là. Ils ont été impressionnés par Kinim, par Arov, Dever, les restes des Makot, les restes des plaies, ils étaient impressionnés. Mais lorsqu'on leur dit que Hachem va nous parler, ça, non. Ça, ils n'acceptaient pas. Et même l'homme Israël, ils n'acceptaient pas. Et donc, comment va le peuple d'Israël?
Et l'homme Israël avait, comment dirais-je, Yeda Shachem Diber El Avraham Vamarlo Vediber El Itzhak.
On savait une chose. On savait une chose. Qu'il y avait une promesse. On savait une chose. Qu'il y avait une promesse. Qu'on devait sortir d'Égypte. Qui a été donnée au Avot, au Père.
D'accord.
Il y a même des Midrashim qui disent qu'ils avaient une Torah, des écrits comme ça, que leur père, Abraham, Israël et Jacob, disaient « Vous sortirez d'Égypte ». C'est une tradition. Comment l'a reçue cette tradition, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient conscients que c'était « Vayomer Hachem El Avraham » que Hachem a parlé à Abraham, je ne sais pas. C'était une tradition, comme on dit, l'an prochain à Jérusalem. Mm-hmm. Pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est marqué quelque part, d'où tu sais, un enfant, il peut poser cette question. Non, c'est la foi de notre nation. On a une certitude dans notre nation que l'an prochain, à Jérusalem, c'est une parole divine, c'est le divin qui a parlé, c'est des sages qui comprennent l'ode. Mais le peuple d'Israël, il sortait des Mégilotes dans le papyrus, et il disait, on sortira d'Égypte, on sortira d'Égypte. Ça, il avait la confiance et la foi que Hachem allait parler, il n'avait pas. Deuxième chose qu'il n'avait pas, la confiance et la foi qu'on allait recevoir des lois. Ça, il ne l'avait pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu qu'on reçoit une Torah. À aucun moment donné, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je les ferai sortir d'Égypte, ils recevront la Torah et rentreront dans l'Israël. Non, la brite, l'alliance entre le Ham Israël et les Avot, c'est qu'il va nous faire sortir d'Égypte et nous faire rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte, rentrer en Eretz Israël. La Torah, ça vient en cours. Donc, quand Moshe Rabbeinu va les faire sortir d'Égypte et qu'il va leur donner le nom de code, pas code, pas kati et trem, et l'okim, que Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de vous, ça, ils le savent. C'est comme si Herzl, il vient devant le peuple d'Israël et dit come back to Jérusalem, retournez à Jérusalem, on retourne à Jérusalem. Ça, le peuple accepte ça. Parce qu'il sait de quoi on parle. Mais une Torah, on ne sait pas de quoi on parle. Que Dieu nous parle, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est exactement comment Rabbi Yehuda Lévi va expliquer le chapitre 19 de Shemot. Il va dire, lorsque le Ham Israël dit à Moshe, on veut entendre, c'est pas, oh, je préfère entendre du rabbin plutôt que du Shaliar Tzibo. Alors, c'est on ne sait pas s'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Peut-être que tu vas nous vendre une nouvelle Torah. Tu vas nous vendre des nouvelles règles. Peut-être tu veux qu'on soit soumis à tes lois, à toi. Si vraiment, comme tu dis, toi, Moshe, Hachem parle, on veut l'entendre, lui. C'est incroyable. Ce qui veut dire, c'est une des preuves, entre autres, de la véracité de la Torah. Parce que tant que la Torah n'était pas donnée, on ne pouvait pas penser une seule seconde que le Créateur du monde nous parle. C'est très important, ça.
Je ne comprends pas.
Je pose une question. Est-ce que sur Mars, il peut y avoir des Martiens? Ou on peut imaginer des Martiens sur Mars? Oui ou non?
On peut.
Oui.
On est libre d'imaginer.
D'accord. Pourquoi on imagine? Parce qu'on voit Mars. Globe, c'est comme, ressemble à la Terre. De la même façon que sur la Terre, il y a
des habitants.
Donc, le cerveau, il fait atekadbe, copier-coller. Sur Mars, il peut avoir des habitants, il faut des conditions, il se cache. Bizarrement, lorsqu'ils sentent les vaisseaux spatiaux de la Terre s'approcher, ils se cachent. Ils sont dans leur miklat parce qu'ils pensent que c'est les missiles du Hamas. On peut imaginer tout ça. Mais pourquoi ça devient l'idée? Ça devient l'idée parce que tu sais que le globe terrestre, qu'il est globe terrestre. Mais imaginez-vous qu'on ne savait pas que le globe terrestre est une boule, qui faisait partie d'un système solaire où il y avait d'autres planètes autour du Soleil et que tout le monde tournait autour du Soleil, etc. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a d'autres hommes ailleurs? Non! C'est impossible une chose comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Eh bien, tant que Hachem n'avait pas parlé au peuple d'Israël, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que le créateur du monde puisse envoyer un message vocal, dans le sens des paroles s'adresser à l'homme avec des paroles. C'était impossible d'imaginer une chose comme ça.
Mais donc, je ne comprends pas. Excusez-moi, mais la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, on le savait, ça.
Non, on ne savait pas.
Non.
Parce que c'est quelque chose qu'on vit même dans son quotidien. Je dirais qu'il suffit d'écouter à l'intérieur et on entend. Mais c'est parce qu'on est capable d'entendre. Et si on ne l'est pas, on n'entend pas.
Yeah. Mais prophète, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne un exemple d'un prophète. Un prophète, c'est une personne que lorsqu'il entend, ce n'est pas ses propres pensées. Et ce n'est même pas ses propres convictions. La preuve est donnée par nos sages, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a une prophétie. Lui, il a eu la prophétie, bien sûr. Il était capable d'aller à l'encontre de tout ce qu'il fait, lui. De tuer son fils et de tuer tous ses idéaux. Parce que là, justement, c'est une parole qui dépassait l'entendement. Je vous dis juste, Rambam dans l'Hilchot Yesodei Torah, il va dire, lorsqu'un prophète recevait une prophétie, il s'évanouissait. Et même nos sages nous racontent que lorsqu'il recevait une prophétie, il n'acceptait pas la prophétie. Il ne voulait pas, parce que c'est comme si on était en train de lui prendre sa vie. Incompréhensible. Prophète, ce n'est pas si simple que ça. Je rappelle ce que dit le Midrash, et c'est un Midrash important par rapport à notre sujet. Que lorsqu'ils ont entendu la première voix, la première parole, leur âme s'est envolée. On parle de mort. On parle de mort, là. La rencontre avec la prophétie, c'est quelque chose qui est autre qu'un message intérieur. Un message profond intérieur. On s'évanouit. On meurt. On fait une crise d'épilepsie. Le corps n'accepte pas une chose comme ça. Mais ça, ils étaient incapables de penser ça parce que c'est illogique. Pourquoi ? Et je suis désolé, mais j'espère que je dis ça seulement à les personnes qui vont continuer avec nous les cours les prochaines semaines. Hachem, est-ce qu'il a un bras, Hachem ?
Non. Est-ce qu'il a quoi ?
Il a un bras, est-ce qu'il a une main ? Yad Hachem, la main d'Hachem, Ene Hachem, les yeux d'Hachem, il a des yeux ?
Non.
On
ne sait rien, on suppose que
non. Non, il n'est pas anthropomorphique.
D'accord. On n'a pas le droit d'attacher des caractéristiques corporelles à Hachem. On dit dans Adon Olam, en lo gouf.
De mouda gouf, en lo gouf.
Yafé. Alors, il n'y a pas le corps.
Mais il y a bassar.
Mouda gouf. Et il n'y a pas des ressemblances au corps. C'est-à-dire que toutes les choses qui concernent le corps, tu ne peux pas le dire sur Akadosh Baruch. Donc, Akadosh Baruch n'a pas de main. Akadosh Baruch, il n'a pas d'yeux. Il n'a pas des yeux bleus. Il n'a pas une kippa. Il n'a pas des oreilles. Il n'a pas un pied. Il n'a pas une langue. Il n'a pas de corde vocale. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de bouche. Il ne parle pas. Hachem ne parle pas.
Comment il s'adresse à Israël ?
Parfait.
Bechouche.
Lorsque il n'a pas de rouche.
Non, on le sent, mais on ne sait pas ce que c'est. On le sent.
Lorsqu'un philosophe, on parle au philosophe et on lui dit « Hachem a parlé aux hommes », il te dit « Bon, c'est là, je ne peux pas parler avec toi parce que tu es âge mental 8 ans. » Jusqu'à 8 ans. À 8 ans, on commence à devenir un petit peu intelligent. Toi, tu es avant ta 8e année. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que Hachem parle aux hommes. Hachem ne parle pas aux hommes. C'est impossible de calquer sur Akadosh Baruch Hu des choses qui appartiennent à l'homme. L'homme parle, l'homme entend, l'homme voit, mais Hachem, chas v'shalom, chas v'shalom,
c'est une chose comme ça. C'est l'homme qui entend, c'est l'homme qui entend.
Je voudrais expliquer ça exactement. Mais vous comprenez une seule seconde, comme c'est un peu difficile. Aujourd'hui, tout le monde, Hachem, il parle. Si pour nous, Hachem, c'est une poupée dans le ciel, alors on a vu des poupées qui parlent. Enbaya, maman, elles disent. Mais si tu arrives à comprendre que la Kadosh Baruch Hu, c'est la source du tout, qu'il n'existe pas, Hachem, c'est il n'existe pas, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un, c'est pas un être. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, dira il n'existe pas par l'existence, mais il n'existe pas. Tout existe, mais Hachem n'existe pas. Il est la source de l'existence. C'est pas ce que ça veut dire au niveau du Sefer. Donc Hachem ne parle pas. Alors, comment c'est marqué dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe? Comment c'est marqué Vaydaber Hashem el Moshe? Comment c'est marqué qu'Hashem parle à Moshe? Il faut comprendre ça. Mais ce que je suis en train de vous faire sentir, c'est qu'il faut se nettoyer de toutes ces pensées. Donc, à l'époque, il y a 3000 ans, vous pensez une seule seconde qu'ils s'imaginaient que la source du tout, Bichlal, est-ce qu'elle s'intéressait à nous? Est-ce qu'elle peut parler à nous? C'est une chose incompréhensible, une chose comme ça. Et ils ne l'imaginaient pas une seule seconde. Et donc, Rabbi Yehuda Halevi, c'est ce qu'il explique. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il dit, ils sont arrivés, ils n'avaient pas une émouna, shlema, parfaite, qui avouerait, mesdames et madame, que le Créateur parle avec l'homme. Jusqu'à ce qu'il a fait entendre les paroles dans les 10 paroles. Jusqu'aux 10 commandements. Jusqu'au Sinaï. Kenayu amo imo. Ils étaient son peuple avec lui. Velo misirlutam aval mihochmatam. Miratam tarboulot achochmot ashmaimiot bezulatam. Mashir lo yamnu la merkam. Mipne shem kmo adavar mezuyaf. Et là, c'est pas une stratégie tarboulot, chochmot, ashmaimiot, c'est-à-dire, c'est pas de la sorcellerie. Parce que il n'y a pas plus pur de ce qu'ils ont vécu. C'est comme l'or le plus pur. Ça, il parle de notre sujet. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est tant qu'ils n'avaient pas vécu ça, alors ils étaient en doute. Mais lorsqu'ils ont vécu et qu'ils ont entendu, alors venez, on prend ce terme-là, ils ont entendu la voix divine, ils ont reçu la prophétie, alors là, il n'y avait aucun doute. Maintenant, aucun doute que quoi? Aucun doute qu'il s'agit de la vérité. Aucun doute qu'il s'agit du En Sof qui est venu vers le Sof, de l'infini, l'indéfinissable, la chose qu'on ne connaît pas, qui est venu, c'est-à-dire quelque chose qui est transcendant à ce monde, qui est au-delà de ce monde, qui est venu et qui a pris contact avec eux par ces paroles-là. Et aucun doute que ce n'est pas possible que c'est de la magie ou des idées ou même un rêve. Ce n'est pas possible que ce soit un rêve. C'est beaucoup plus fort que ça. Et ça s'est passé seulement au Sinaï. Et à tel point, regardez, tel point, ils ont senti que c'était dangereux d'avoir cette rencontre-là, un peu comme on a vu dans l'Aftara Shabbat, où Manoah dit à sa femme, maintenant on va mourir, on a vu le Malach Hashem, on a vu l'ange d'Akadosh Bokhu. Sa femme plus intelligente, il dit, mais attends, sois logique. S'il nous a donné une mission, c'est pour la réaliser. Ça ne sert à rien s'il nous assassine. Et là, ils étaient tellement conscients du danger de cette rencontre avec l'infini qu'ils ont dit stop. Maintenant qu'on a pris conscience que oui, le divin parle à nous et à toi, Moshe, on veut entendre de toi, Moshe, parce qu'on veut rester en vie. Mais ça a été marqué dans l'éternité d'Israël, dans l'âme d'Israël, dans le génie de la nation d'Israël, que le Ein Sof, que l'infini vient dans le Sof. Comment c'est possible? Mais comment on peut expliquer ça? On ne sait pas. Mais ça s'est réalisé, ça a été marqué par nous. Le Midrash, il est très dur. Le Midrash compare le don de la Torah à Ones, un cas de viol, Chas v'Shalom. Il a été violenté par Akadosh Baruch Hu, pris de force, etc. Comment c'est possible? Parce que ça a fait un traumatisme énorme dans le peuple d'Israël. Je connais des personnes qui travaillent des énergies, découvrent plein de traumatismes, etc. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, c'est vrai, c'est une question, mais on ne sait pas. Je dis le Midrash, on parle du Sinaï. Tu peux retrouver le Sinaï dans la personne ou retrouver ce traumatisme dans la personne?
Non.
Vous êtes sûr?
C'est pas sûr.
On peut retrouver le trauma de la naissance, mais pas de Matan Torah.
Bien fait. Alors, on va apprendre.
C'est pas sûr.
Non, c'est Matan Torah. On va apprendre que le Matan Torah individuel, c'est la naissance.
Ah, voilà.
Non, hein. Mais moi, j'aurais aimé la naissance Klali, naissance d'Israël. Si on est Israël, c'est de rester. Parce qu'on dit que nous, on porte toutes les traumatismes du peuple d'Israël, les solutions du premier temps, les solutions du second temps, on porte tous ces traumatismes. On a dans les trucs transgénérationnels des traumatismes qui sont portés. On doit être capable de retrouver ça, justement, du Sinaï, la sortie d'Égypte, la destruction du premier temple, etc. Bref, ça, c'est entre parenthèses. Mais pour ça, tout vous dire que l'homme Israël est arrivé à ce niveau-là de certitude. Ça, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Rambam, il prend ce même épisode de la Torah, parce que pour tout le monde, c'est clair. Le Ham Israël voulait du Emet, voulait la vérité. Il ne se basait pas sur ce que Moshe disait. Ça, c'est très important.
Jusqu'à aujourd'hui.
Oui, mais aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Parce que tu...
Il y a trop de shaker.
Tu peux poser des questions sur une chose que on est en doute parce qu'on ne sait pas. Mais une chose qui a été vécue et que tu remets en question, ça c'est problématique. Ça manque de yachut, c'est un manque de droiture. Mm-hmm. Tu peux, à l'époque, comme Avraham Avinu, il s'est posé la question, est-ce, qui est Dieu, le soleil, la lune, etc. Tu peux te poser des questions. Mais une fois qu'il y a eu une révélation, Itgalut, où le divin s'est révélé, et toi, tu es encore en arrière de 3000 ans de te poser la question, est-ce qu'il existe ou pas ? C'est problématique. C'est problématique. Maintenant, regardez qu'est-ce que Rambam dit. Excusez-moi, parce que je vois, j'ai pas... Voilà, on revit. OK, j'ai vu les questions un peu trop tard. Vous pouvez poser des questions. Si j'arrive à percer les questions en même temps, Bessimra, je répondrai. Maintenant, regardez ce que dit le Rambam. Alors, Rambam, il a bien sûr écrit son chef-d'œuvre Mishneh Torah. Il parle de Ilchot Yesodé à Torah, les bases, les lois de fondement de la Torah. Alors, c'est là-bas où il parle de notre Emouna, il parle justement de la névoie, de la prophétie, et bien sûr, il va parler de la prophétie de Moshe. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, on est au chapitre 8, si vous avez des liens en français, etc., ou chapitre de 8 de Ilchot Yesodé Torah, la Halacha Aleph, c'est de la Halacha. Moshe Rabbeinu, ah, c'est très important ce que je vous dis là. C'est de la halakha, c'est un livre d'halakha. Et comme on sait, mi Moshe ad Moshe lokam ki Moshe, depuis Moshe Rabbeinu, Moïse, jusqu'à Moshe, il ne s'est pas levé comme un Moshe. Moshe, le Rambam, a écrit toutes les halakhot, toutes les lois. Donc c'est un livre de loi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, donc Moshe, notre maître. Lo eminu bo Israël, mi pnei haotot she'asa. Israël n'a pas eu confiance en lui à cause des miracles qu'il a fait. C'est-à-dire, si vous rencontrez un rabbin qui fait des miracles, ce n'est pas pour ça qu'on va avoir confiance en lui, ou en ce qu'il dit, ou en ce qu'il prévoit. Chez Amamin Alpiaotos, Yesh Belibodofi, je le dis en français d'aujourd'hui, celui qui a de la émouna envers quelqu'un parce qu'il y a des signes, des miracles, des prodiges, dans son cœur un problème. Pourquoi? Chez Ifsha, chez Yehaseahot, Belat Vekishuf. Parce qu'il est tout à fait possible que le prodige qui est fait, le miracle qui est fait, c'est pas de la sorcellerie. Donc ça calme tout. Une personne qui cherche de grands rabbanim en fonction du nombre de miracles qu'ils font, c'est pas parce qu'il fait un miracle que c'est forcément une personne grande. Puisque même un sorcier est capable de faire des choses surnaturel. Et là, kolaotot, mais cependant, tous les signes chez Asa Bamidbar que Moshe a fait dans le désert, tous les prodiges qu'il a fait dans le désert, les filatsore chassan, c'est seulement par le besoin qu'il a fait. Lo la viraya, la névoie, ce n'est aucunement dans le but de prouver sa prophétie. On aurait pu penser que Moshe va faire des miracles pour dire, ayez confiance en moi, regardez, je fais des miracles, donc j'ai le émet, j'ai la vérité. Il fait non. C'est parce qu'on avait besoin de ça. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas pour apporter des preuves à quoi que ce soit. Tsarach, l'Ashkia et Amitzrim, il devait faire couler, lors de la sortie d'Égypte, lors de la passage de la mer des joncs, tuer les Égyptiens dans ce qu'il a fait, en ouvrant la mer et en refermant la mer. Karetaya Mitzlinambo, il a ouvert la mer, il nous a fait passer à travers. Tsarach nous les Mazon, Orinanou et Taman, on avait besoin, le peuple d'Israël avait besoin de nourriture. Il a apporté la manne, il a fait descendre la manne du ciel. Samou, Bakalaem et Taeven, ils avaient soif, il a ouvert la pierre, le rocher, pour faire sortir de l'eau. Kafrou Boadat Korar, l'assemblée de Korar s'est montée contre lui. Et donc, Balaam, Balaotama, arrête, il a fait que la terre avale l'assemblée de Korar. Et voici ainsi tous les miracles que Moshe a fait ce n'était aucunement pour prouver qu'il avait raison, c'était la névoie, mais par besoin. Pourquoi ? Parce que si tu as besoin de miracles pour prouver la Emouna, c'est une faiblesse. Si tu as besoin de miracles pour prouver la Emouna, c'est une faiblesse. Donc regardez bien, si on n'a pas besoin de miracles, Kal vachomer a plus forte raison qu'on ne doit pas avoir besoin de preuves intellectuelles. Ça aussi, c'est une faiblesse. Il y avait le beau-père du Rav Kook à Aderet, de Ponyovitch, grand Tanit Racham à Jérusalem, etc. Qui est venu monter à Jérusalem, qui était un grand rabbin de Yerushalayim. Un élève lui apporte un livre, une série de preuves de l'existence de Dieu. Et il lui dit, le Aderet, en regardant ce livre, il fait, tu apportes des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi apporter des preuves sur la chose à Vadaï chez Bavadaï? La certitude de la certitude. C'est affaiblir la chose. C'est une honte de devoir emmener une chose sur une certitude. C'est comme, par exemple, on est obligé de prouver que l'armée d'Israël est une armée morale. On est obligé de prouver que nous, on est en train de nous défendre. Mais c'est, on doit le faire. On doit le faire, parce que de l'autre côté, on ne nous croit pas. Mais on sent que c'est quelque chose de qu'on doit défendre Israël, prouver qu'on a raison de se défendre, prouver qu'on a, on se sent, qu'on appelle ça... c'est pas juste, on sent que c'est de l'injustice pure et simple. À plus forte raison qu'on doit prouver l'existence de la Kadosh Baruch Hu, le bien fondé de l'existence divine. C'est une injustice de faire une chose comme ça. Et le Rambam nous dit, sache que la Torah ne vient pas prouver. Les miracles de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas pour prouver sa vérité. Et là, alors, pourquoi ? Et en quoi ils ont pu avoir alors une confiance en lui ? Tu ne peux pas donner ta confiance à n'importe qui. Tu ne peux pas dire, allez, je donne ma confiance. Très important. Dans les autres religions, il faut que tu aies confiance. En qui ? En Mohammed, qui a eu une expérience divine. Ou il faut que tu aies confiance en l'acrobate, qui a eu une expérience divine, qui est le Dieu lui-même, le Fils, le Saint-Esprit, le Père. D'accord ? Nous, jamais on n'a cru, mon cher Abel. Vous êtes avec moi ? Quand le peuple dit, quand Mohammed il veut convaincre les Juifs de Médine qu'il a eu ce dévoilement, parce qu'il veut donner la Torah, il veut mettre au courant les Juifs, que le nouvel Torah, c'est le Coran. D'accord ? C'est ça le au début. Mais les Juifs de Médine, ils rigolent de lui. Dis-toi, analphabète, de quoi tu me parles ? Mais c'est normal, parce que même Moshe, on n'a pas cru. Même Moshe, on n'a pas accepté ce qu'il disait. On a dit, ce que tu vis, avec tous les miracles qu'il a fait, il les a fait sortir d'Égypte et ouvert la mer. C'est marqué après qu'ils ont eu la Emouna en Moshe, de les avoir sortis d'Égypte. Mais pas que Hachem lui a parlé pour nous donner la Torah. Et donc, on n'accepte pas une chose comme ça. Le Am Israël dit, si c'est vrai, je veux expérimenter la chose. Je veux vivre la chose.
Et donc, ressent.
Expérimenter, vivre. C'est-à-dire que Hachem me parle. S'il parle, qu'il me parle à moi. Et c'est ce que le Rambam dit. Il dit, ou Bema Inugo. Alors, de quelle manière ils ont eu la Emouna en Moshe ? Bema Amad Har Sinai. C'est seulement au Sinaï, chez Enenu Raou, Rambam, en 1100 et quelques, 1135, 1140, en l'an 1140. Chez Enenu Raou, nos yeux ont vu. C'était là-bas, Rambam. La nation a vu, notre peuple a vu. Velozar, et pas une personne étrangère. Veoznenu Shamu, et nos oreilles ont entendu. Loacher, à Ej Vakolot Balapidine, entendu, on a vu le feu. On a entendu les voix, on a entendu les torches. Veuniga chez la Raphaël, va col medaber ela, va nous chomi, Moshe, l'air et mon l'air, karveka. Et on a entendu quand Kadosh Bourou parlait à Moshe, il lui disait Moshe, va dire au peuple d'Israël. Vechen mon mère, panim et panim, mère Hashem, machem, venemar lo et avotenu, karat Hashem et abrit azot. Qu'est-ce que dit Kadosh Bourou et Slecha, qu'est-ce que dit Moshe? C'est pas avec vos pères, c'est avec vous que Kadosh Bourou il a contracté une alliance. Parce que c'est à vous que Kadosh Bourou il a parlé. Gimel, ou minaïn chez Mahamad Arsina il est vado, i araya les nouveauto, chiemet, chez en bodofi. Et d'où est-ce qu'on sait que le mont Sinaï, donc le don de la Torah, ça a été justement la preuve à la névo à la prophétie de Moshe, chez Neymar, comme il est marqué, ina nochi balechabe avnan, baru ishma, bidaberima, begam becha yaminu liolam. C'est ce que le verset qu'on a vu tout à l'heure, Hachem dit lui-même, au Sinaï, c'est lorsque je te parlerai que le peuple d'Israël aura une confiance parfaite avec toi. Miklash et Kodem d'Averzé, Elohim Inoubo. Emunot Shei Omedet Leolam. Benehemanut Shei Omedet Leolam. Ce qui veut dire, si Hachem dit, c'est maintenant au Sinaï qu'ils vont avoir une Emuna parfaite avec toi de manière éternelle, ça veut dire que jusqu'avant, ils n'avaient aucune Emuna en Moshe. Comme je dis, il y a marqué à la fin de la Shira, oui, Vayaminu Bachem, ils ont une Bachem, ou même Moshe Avdo, en tant que Eved, en tant que serviteur d'Hachem qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ça s'arrête là. Et là, Nehemanut Shei Shachara, Hiro Marshava, avant, ils avaient tout le temps des doutes envers Moshe. Et par conséquent, eux-mêmes ont été des témoins de la véracité de la place de Moshe, de la parole divine. Et on n'a plus besoin de miracle après ça. Comme le grand principe de la Torah, il y a deux témoins qui ont vu une chose qui s'est passée. Sur ça, on peut s'appuyer. Mais là, c'est le peuple tout entier qui a vécu cette expérience-là. Ve zehu she'amar lo akadosh baruch hu bitchilat nevuato ba'et shenatan lo haotot la'asot am Yisrael ve'amar lo meshamu lekol echad yada Moshe Rabbeinu shamin la'pi haotot ad shehu akadosh baruch hu she'haotot. Et donc, akadosh baruch hu, il sait que ce n'est pas par les miracles, mais c'est parce qu'ils vont entendre sa propre voix. Donc, qu'est-ce qu'on a? Même d'après le Rambam, donc les deux, Rabbi Yehuda Lévi dit, il n'avait pas confiance que Dieu parle au peuple d'Israël, ça c'est Rabbi Yehuda Lévi. Et Rambam, ils avaient confiance que Dieu parle, mais que Moshe n'était pas envoyé par Hachem. Donc le Sinaï, ça a permis à Moshe, que le peuple d'Israël accepte Moshe comme envoyé. Qu'est-ce que tu apprends de là? Deux choses. De Rabbi Yehuda Lévi, d'abord une chose extraordinaire, tant que Akadosh Baruch Hu ne parle pas, il ne pensait pas, il voulait vivre ça, et Akadosh Baruch Hu leur a parlé, et de là, c'est marqué en nous qu'à Kadosh Baruch Hu, on voit une prophétie. Rambam, non. Moshe Rabbeinu, que le peuple d'Israël, il savait qu'à Kadosh Baruch Hu parlait. Mais il pensait que Moshe n'était pas envoyé. Et donc, ils veulent être sûrs que Moshe, c'est le événement d'à Kadosh Baruch Hu, c'est le serviteur fidèle d'à Kadosh Baruch Hu. Et le Sinaï va dévoiler justement la fidélité que Moshe a envers Kadosh Baruch Hu. Et sinon, ils savaient ça. Mais dans les deux cas, c'est que ils n'ont pas eu confiance aux preuves de miracles, aux preuves de prodiges que Moshe a fait. Encore plus, comme je vous ai dit, encore plus par rapport aux miracles intellectuels, des preuves, des thèses, non. La Emouna, c'est par la chose qui est vécue par le peuple d'Israël. Alors, je vois qu'il y a une question ici. C'est la conséquence de la maltraitance de l'Égypte qui a fait un peuple une femme. En effet, quand on est en Égypte, on est un petit peuple et on sait que chaque peuple, il s'unit énormément, c'est-à-dire, qui est maltraité, qui vit une souffrance et que justement, ils savent à qui ils ont affaire. Et on sait qu'à l'époque, Paro disait qu'il était Dieu et yeah. qu'il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Et tout le monde savait que c'était quelque chose de faux, etc. Par contre, ils savaient que oui, il y avait de la magie, oui, il y avait des forces maléfiques. Des
la Touma.
De Touma, d'accord. Mais à aucun moment donné, d'après Rabbi Yehuda Lévi, tu ne peux pas comparer toutes les forces maléfiques qu'il y avait avec le dévoilement de tout ce qui va faire. Rappelez-vous ce que Pharaon va dire, il ne libère pas le peuple d'Israël parce qu'il ne comprend pas. Il dit non, ce monde, c'est que ce monde. Il y a des forces cachées, mais c'est des forces de ce monde, c'est Elohim. C'est pour ça que quand il va être dans Yamsou, dans la mer des gens, il va crier « Mira mora ba'elim, yudke vavke » qui est comme toi parmi toutes les forces divines, toutes les forces même maléfiques. C'est seulement toi, yudke vavke. Il dit le nom de yudke vavke. Mais ce nom yudke vavke ne peut se dévoiler que lors de la naissance du peuple d'Israël. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda Lévi veut nous enseigner. Le peuple d'Israël, en même temps que la naissance du peuple d'Israël, le dévoilement du nom Yud Kevavke. Avant le peuple d'Israël, Yud Kevavke ne se dévoile pas. C'est seulement avec le peuple qu'on peut. Donc, qu'est-ce qu'il lui répond le Chaver? On finit sur ça. Tu veux rencontrer Yud Kevavke? Il faut rencontrer le Yud Kevavke par la création par laquelle il se dévoile. Si tu veux rencontrer David Partouche, qu'est-ce que vous allez dire? Tu veux rencontrer David Partouche, par la parole, zoom, par le visage, zoom. Non, mais je veux voir la vraie personne. Alors, on va donner l'adresse où la personne se trouve. Et le corps va être celui qui dévoile cette âme qui s'appelle David Partouche. D'accord ? Le roi des Khazars, il veut rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il répond le Khaver, ben on va te donner la bria, la créature qui dévoile Yudke Vavke. Qui est la créature qui dévoile Yudke Vavke ? Alors tu peux dire le monde. Oui, mais c'est Elohim. Mais le divin le plus profond, le Ensof qui se dévoile dans le Sof, il n'y a qu'une bria qui le dévoile, c'est Israël. Donc même des goïms, et on ne va pas dire qu'ils doivent se convertir, si tu veux avoir une relation avec les divins et une relation avec la nation d'Israël, parce que c'est eux qui sont porteurs de lui. C'est bien ? On va s'arrêter ici. Est-ce que si vous avez des questions, Bessimcha ?
Toda, Rav Partouche.
Toda, Rav Partouche. Thank you, thank you.